sur l'affirmation. C'est le primat du non-être, du néant sur l'être. C'est ça, je crois, le signe de la modernité au plan philosophique. Alors c'est intéressant de voir que cette modernité a pu être introduite grâce au problème de la création. Chez les Grecs habituellement, René, avant Aristote, le devenir, mais c'est le devenir physique. Quand on ne parle que du devenir physique, il n'y a pas de danger de mettre la négation avant là. Non, parce que vous savez ce que c'est. Hein. Il faut nécessairement qu'avant un petit animal naisse, il faut bien qu'il s'agisse. Avant qu'un petit mouton naisse, il faut qu'il y ait mère. Hein. Et vous n'allez pas dire que ça va naître à partir de rien. Ce serait tellement commode que ça naisse à partir de rien. Dans le monde physique, il n'y a pas de danger. On reste réaliste. Dès qu'on touche le monde métaphysique, il faut avoir les pieds de plomb pour ne pas tomber dans l'idéalisme. On cérébralise si vite dès qu'on est en métaphysique. Et alors, quand vous arrivez à parler du problème de la création, c'est le primat du non-être, du rien, au point de départ. Qu'est-ce que c'est créer? C'est faire quelque chose à partir de rien. Alors, si facilement, quand on a découvert ce que c'était Dieu, on prend la place de Dieu. Est-ce que je vous ai déjà parlé de cette affirmation de Nietzsche qui est si, si significative, hein? Si Dieu existe, il est le créateur. Or, je suis créateur, donc Dieu ne peut pas exister. C'est admirable, ça. C'est une des choses très, très fortes. Syllogisme de l'ivrogne au niveau métaphysique. N'est-ce pas? D'habitude, vous n'êtes pas enivré au niveau métaphysique. Mais l'ivrogne au niveau métaphysique, c'est pour ça que la métaphysique, c'est le mensonge. On voit très, très bien ça. Et c'est très fort, ça. Parce que c'est le problème de la création. C'est le problème de la création qui a mûri la métaphysique d'une façon telle qu'à partir de ce moment-là où vous maintenez le mystère de l'adoration et donc vous maintenez le primat de Dieu, ou bien au contraire, vous introduisez le primat de la négation. Je crois que c'est très important ça. Parce qu'il faut comprendre hein, ce que nous vivons. Il faut le comprendre à la source, hein, papa, pas dans les conclusions. Non, à la source, comprendre qu'il y a un problème très très fondamental. Si vous voulez, la foi a mûri notre intelligence d'une manière telle que ça devient insupportable. Pour beaucoup, qui ne vivent plus d'une foi vivante. La foi est insupportable quand on ne vit pas d'une foi vivante. Ça devient insupportable. C'est vrai, ça mûrit notre intelligence de façon étonnante, puisque la foi touche la capacité fondamentale de l'intelligence par rapport à l'intelligence est ordonnée vers Dieu. C'est ça que fait la foi. Elle actue votre puissance obédientielle de l'intelligence. Actuer la puissance obédientielle de l'intelligence, mais c'est quelque chose de formidable. Les réalités que vous voyez n'actuent pas votre puissance obédientielle. Ça actue votre conditionnement, tout bonnement. Tandis que la foi actue votre puissance obédientielle. Votre puissance obédientielle de l'esprit. Capax Dei. Ça actue ça. Alors, quand c'est actué, si on ne le vit pas, ça devient insupportable. Ça devient quelque chose de trop lourd. Ça devient quelque chose de trop lourd. Alors, où on a cette solution? La plupart du temps, on voit des chrétiens qui disent « Ah, la foi, c'est tout. Plus besoin d'être intelligent, j'ai la foi. » Vous voyez, comme c'est terrible de dire ça. « J'ai plus besoin d'être intelligent parce que j'ai la foi. » Ça, c'est la négation même de la foi. Si j'ai la foi, je dois être plus intelligent qu'un autre. Puisque la foi actue mon intelligence et donc donne une exigence plus fondamentale à mon intelligence que si je n'avais pas la foi. Mais pour beaucoup, vous voyez, pour beaucoup, il faut se le dire, hein, pour beaucoup, j'ai la foi, donc je n'ai pas besoin de réfléchir sur ces problèmes, puisque la foi me donne des solutions. Donc la foi favorise la paresse. Et quand la foi favorise la paresse, on sait à quoi ça conduit. Et donc, ça pourrit l'intelligence, ça corrompt l'intelligence. Alors, voyons ça, tout de suite, cette contrainte. Saint Augustin, dans son commentaire littéral sur la Genèse, distingue de l'œuvre de la création l'œuvre de la propagation qui appartient à la nature. Donc, Saint Augustin distingue tout de suite ces deux choses très importantes, création, procréation. Le mot procréation est très significatif, la génération. L'homme engendre l'homme avec le soleil, comme disaient les anciens. Et Dieu crée l'âme spirituelle ex nihilo. C'est les deux formules. Alors, on voit très bien Saint-Augustin en face de ça, la procréation et la création. Donc Saint-Augustin dit dans son commentaire, il distingue l'œuvre de la création et l'œuvre de la propagation. Opus propagationis, opus naturae et opus creationis. La difficulté actuelle est soulevée à cause des formes que certains penseurs disent ne pas commencer par une action de nature, mais subsister antérieurement. Donc, voyez, ec dubitatio, inducitur, c'est intéressant, Saint Thomas montre que le doute, la dubitatio, ça provient à cause des formes. Tout le problème est au niveau de la forme. Alors, certains posent en effet que les formes ne commencent pas par une action de la nature, mais qu'elles subsistent antérieurement dans la matière, où elles seraient, estime-t-il, comme cachées. Mais cette idée ne leur vient que de l'ignorance de la matière. Ça, c'est la fameuse chose de la génération spontanée. C'est le Moyen-Âge, on voit très très bien. Dans la boue, grâce au soleil, il y a des têtards qui apparaissent. Le fromage, on voit très bien. Laissez-le bien mûrir au soleil, il y a de la vermine qui apparaît. Génération spontanée de la germine. On n'a pas vu d'où ça venait. Là, vous voyez, Saint Thomas dit, mais cette erreur, donc, mais cette idée ne leur vient que de l'ignorance de la matière. On ajouterait la matière vivante. Je n'ai pas vu que dans la matière, il y avait des germes, il y avait des semences. Et alors, par le fait même qu'il y a des semences, eh bien, le fromage, un peu avancé, quoi. Le fromage de la fin du carême, oui, alors un peu avancé aboutit à ça. Ils ne savent pas distinguer entre la puissance et l'acte. Alors ça, c'est très intéressant. Hein. Donc, cela arrive de l'ignorance de la matière, parce qu'ils ne savent pas distinguer entre la puissance et l'acte. Donc, je ne peux connaître la matière que par l'acte. C'est ça que Saint Thomas nous fait comprendre. Ils ne savent pas distinguer entre la puissance et l'acte, et de ce que les formes préexistent dans la matière, en puissance, ils concluent qu'elles y préexistent purement et simplement. Préexister en puissance, ce n'est pas le rien. D'autres, alors les opinions, hein, d'autres, ont prétendu que les formes viennent par création d'un agent séparé, de sorte qu'à toute opération de nature, la création s'ajouterait. Pour la création des petits chats. C'est ça que ça veut dire. D'autres ont prétendu que les formes viennent par création, toutes les formes, viennent par création, d'un agent séparé. De sorte qu'à toute opération de nature, la création s'ajouterait. Mais l'erreur provient cette fois de l'ignorance de la forme. Ces philosophes ne songent pas que la forme naturelle d'un corps n'est pas une chose subsistante, mais ce par quoi ou selon quoi quelque chose est. De telle sorte que devenir et être créé, n'appartenant proprement qu'aux choses subsistantes, ainsi qu'on l'a dit plus haut, les formes n'ont ni devenir ni création, elles sont concrées. Vous voyez, c'est très curieux, hein ? C'est deux erreurs par rapport à la matière et par rapport à la forme. Ce que devient par le fait même, oui, ce qui devient par le fait même de l'agent naturel, c'est proprement le composé fait de matière. Ainsi, dans les œuvres de la nature, la création n'intervient point. Mais quelque chose est toujours présupposé à l'opération de la nature. Alors vous voyez, exception faite de la procréation humaine. C'est la seule exception. Et ça, c'est très très important à bien saisir. Procréation. Donc, quand il vous dit procréation humaine, à l'œuvre de la nature s'ajoute la création. Et comprenons bien, Dieu ne prend pas l'initiative. Dieu laisse l'homme prendre son initiative. Ça, c'est la chose merveilleuse et très étonnante. Dieu laisse passer devant l'homme. Dieu n'habite pas comme créateur. Mais Dieu est pauvre comme créateur puisqu'il laisse passer devant l'homme. Toutes les initiatives de la procréation viennent de l'homme. Qu'il soit conscient ou pas conscient, c'est autre chose. Hein. Mais toutes les initiatives viennent de l'homme. Et Dieu répond. À savoir, jusqu'où Dieu va répondre. Tout le problème hein, d'aujourd'hui. Parce que c'est très important de voir ça. Dieu répond. Oui, la procréation humaine, Dieu répond. Tandis que lorsqu'il s'agit de toutes les autres générations, toutes les autres générations sont en dehors de la création. Alors, ceci permet de comprendre tout le problème, s'il existe, de l'évolution. Vous voyez, ce qui montre bien que le problème de la création et le problème de l'évolution n'ont rien à voir l'un par rapport à l'autre. Et ça, c'est capital de le comprendre. Hein. Et ça, saint Thomas nous le montre ici, vous voyez, de façon très nette. Il le dit de façon absolue. L'évolution est au niveau du vivant de vie biologique. Vous vous souvenez, du moins, ceux qui l'ont vu à ce moment-là, la réaction violente d'un Rostand par rapport au Pertéyard. Rostand a dit, Teilhard n'a rien compris à l'évolution. Mais non, assez Ross. De dire ça. Il n'a rien compris. Parce qu'il étend l'évolution à tout le domaine du physique. Et que l'évolution est un problème propre au niveau de la vie biologique. Et ça, je crois qu'il a tout à fait raison. L'évolution est au niveau, donc, de la génération. C'est au niveau de la génération. C'est pour ça que tous les progrès qu'on fait au niveau de la génération du vivant ont une répercussion immédiate par rapport au problème de l'évolution. Alors, le seul cas où il y a intervention de la création par rapport au problème biologique, c'est la procréation humaine. J'espère que vous voyez nettement, parce que ça c'est très très important, il faut avoir des visions très nettes là-dessus. Les confusions se font dans ce domaine-là de façon terrible, et pour certains, ça pose des problèmes même au point de vue de la foi. Alors, il faut être très très net là-dessus. Il faut bien comprendre où se situe le problème de la création, où se situe le problème de la génération, où se situe le problème de la procréation humaine. Et ça, c'est... Et où se situe le problème du devenir physique. Le devenir physique n'est pas la génération du vivant. C'est autre chose. Et le problème de la procréation humaine implique des éléments que la génération du vivant ne peut pas expliquer. Au fond, la procréation humaine ne peut s'expliquer philosophiquement qu'en faisant appel à un regard de sagesse. pas expliquer la procréation humaine sans un regard de sagesse. Tandis qu'au contraire, la génération de l'animal, la génération du vivant de vie biologique, peut s'expliquer sans l'intervention d'un regard de sagesse, sans faire appel au Créateur. Alors voyons maintenant la réponse aux objections. Une fois qu'on a compris le principe, c'est simple. Simplement élaguer. C'est un article qui est merveilleux ce point de vue-là. C'est simplement ne tombez pas dans la confusion. Et alors on voit que les deux grandes confusions proviennent d'un manque d'intelligence de la matière et de la forme. C'est un manque d'intelligence de la matière et de la forme. Alors, voyons donc la première objection qui consiste à dire « Or la forme ne peut venir d'un élément antérieur puisqu'il n'y a pas de matière. » Puisqu'en elle, il n'y a pas de matière. Alors, réponse. On voit par là en quoi pêche le premier argument. Les formes commencent à être en acte quand le composé est formé. Mais ce n'est pas qu'elles-mêmes soient faites directement et en elles-mêmes. Elles sont faites seulement par accident. Cette per accidens tantum. Vous voyez bien la réponse. Aucune action physique ne se termine à la forme. Aucune action biologique ne se termine à la forme. Toute action physique, tout devenir et toute génération, toute opération, se termine au composé. C'est le composé qui est le terme de tous les devenirs physiques et biologiques. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'elle ne se termine à la forme qu'accidentellement. Parce que la forme est en acte dans le composé. La forme n'est pas en acte en elle-même, dans le monde des vivants biologiques. Deuxième objection. En outre, l'effet ne peut pas dépasser sa cause. Effectus non est potentior sua causa. Or, dans les choses naturelles, on ne rencontre de cause que des formes accidentelles, actives ou passives. Une action naturelle ne peut donc aboutir à la forme substantielle, il reste que celle-ci doit être créée. Vous voyez bien, le raisonnement est assez simple à comprendre. C'est que l'effet ne peut pas dépasser sa cause. Alors, lorsque vous êtes en face d'un effet qui est une forme substantielle, il faut donc que ce soit la création. C'est à tort, réponse. C'est à tort aussi qu'on attribue l'action naturelle aux qualités actives ou passives prises séparément. Dans la nature, les qualités actives agissent en vertu des formes substantielles. Et c'est pour cela que l'agent naturel produit son semblable, non seulement en qualité, mais aussi en espèce. Alors ça, c'est toute la question de la génération. La génération est une opération dont le terme est substantif et est substantiel. Et cependant, la génération dans son devenir n'est pas substantielle. Puisque la substance comme telle n'implique pas de devenir. Elle implique un devenir dans sa transmission et pas en elle-même. Donc il faut distinguer les deux aspects. Toute procréation, toute génération au niveau naturel, au niveau biologique, se fait par l'intermédiaire des accidents. Pas possible autrement. Qui sont instruments de la nature. La troisième objection. En outre, la nature procède du semblable au semblable. Or, il y a dans la nature des êtres engendrés par un principe absolument dissemblable, comme c'est évidemment le cas des amis animalcule, engendré par putréfaction, c'est très joli. Donc la forme de ces êtres-là n'est pas l'œuvre de la nature, mais d'une création, et il doit en être de même de la nature. Vous voyez, c'est les animaux qui apparaissent, vous dites, fromage, putréfaction. La génération spontanée au Moyen-Âge. C'est la génération spontanée, c'était le lieu par prédilection. Saint Thomas devait exprès garder dans son bureau un morceau de fromage un peu pour voir la génération spontanée. On a dit ça, oui. Ça apparaissait quelque chose qui se mettait à gigoter tout d'un coup. On argue encore de la génération spontanée, mais celle-ci, ad generationem animalium imperfectorum sufficit agens universale. Alors ça c'est l'explication de saint Thomas, qui est l'explication de saint Albert. Alors on argue encore de la génération spontanée, mais celle-ci s'explique par ce fait que pour la génération des animaux imparfaits, ça ne dépasse pas certains seuils. Le mouton qui apparaît, génération spontanée. Non. Petit ver, oui. Petite grenouille, oui. Ça ne dépasse pas un certain seuil. Ce serait trop commode, vous voyez, génération spontanée de certaines choses qui apparaîtraient. Mais ceci s'explique par le fait que pour la génération des animaux imparfaits, un agent universel, le soleil, un agent universel peut suffire, à savoir la vertu céleste. Et à cet agent universel, ses effets sont semblables. Non en espèces, ce ne sont pas des petits soleils, c'est bien évident, mais selon une certaine analogie. Il n'y a donc pas lieu de dire que les formes de ces êtres soient créées par un agent séparé. Quant aux animaux parfaits, un agent universel ne suffit pas à les engendrer. Il faut un agent approprié, à savoir un agent univoque. Très cru, ça. Alors, c'est ça, évidemment, c'est intéressant à titre de curiosité. Parce que là encore, on pourrait dire à saint Thomas que c'est l'ignorance de la matière qui lui permet de dire ça. On prendrait le même argument de saint Thomas. C'est qu'au Moyen-Âge, la connaissance de la matière n'allait pas assez loin, dans l'ordre de son conditionnement. Et donc, on ne pouvait pas voir et détecter que, de fait, il y avait les germes d'un vivant. Mais les principes restent intéressants à voir. Alors évidemment, je crois que nous pouvons aller beaucoup plus loin. La position de saint Thomas permettait de parler d'une évolution. La position des animaux supérieurs où il y a une cause univoque nécessaire, ça devient beaucoup plus difficile. Alors, dernière objection, au surplus. Ce qui n'est pas créé, n'est pas une créature. Si donc nulle création ne se mêle aux œuvres de la nature, il s'ensuit que les œuvres naturelles ne sont pas des créatures. Ce qui est une hérésie. Quant à la nécessité d'être créé pour être une créature, il y a là une confusion verbale. Ça, c'est la glose. Comme les opérations de la nature présupposent toujours des éléments ou principes créés, on appelle pour cette raison créatures les êtres que la nature réalise. Mais il ne s'ensuit pas qu'ils soient directement créés. Tout être naturel est créé, est une créature. Mais la manière dont ces êtres apparaissent n'est pas toujours la création. Donc, confusion entre la manière dont ces êtres apparaissent et le terme. Alors ça, vous comprenez tout de suite, hein, j'espère. C'est que la manière dont ils apparaissent peut impliquer un devenir. Alors, à ce moment-là, ce n'est plus proprement une création. Peut impliquer un non-devenir et un don immédiat de la forme, alors on est en phase d'une création. Donc, vous voyez que cette question est intéressante, parce qu'elle nous permet de comprendre quelque chose dont on fait souvent la confusion. On dit facilement que l'art vient coopérer à l'œuvre du Créateur, ce qui est faux. L'art ne coopère pas à l'œuvre du Créateur, mais l'art vient perfectionner l'œuvre du Créateur. C'est deux choses différentes. Et je crois qu'il faut bien préciser ça. Et au fond, c'est cet article qui nous donne la clé, ça. Je ne peux pas dire, quand je suis un artiste et que je réalise une œuvre, que je coopère à l'œuvre créatrice de Dieu. Puisque personne ne coopère à l'œuvre créatrice de Dieu. Personne. Je ne peux pas. Nous avons vu la grande question que la création répugne à se servir d'instrument. Donc je ne peux pas coopérer à l'œuvre créatrice de Dieu. L'œuvre créatrice de Dieu est propre à Dieu. Donc Dieu seul crée. Mais je peux dire que Dieu a créé une œuvre qui implique des imperfections. Et si Dieu a créé une œuvre qui implique des imperfections, c'est que Dieu voulait que l'homme achève son œuvre. Et donc, qu'il réalise à partir de l'œuvre créée une nouvelle œuvre qui est l'œuvre propre de l'homme. Alors ça, je peux le dire, et non seulement je peux le dire, mais je dois le dire. Parce que ça situe exactement, vous voyez, la place de la coopération de l'homme. La coopération de l'homme ne doit pas se donner dans la ligne de la causalité créatrice. La coopération de l'homme doit se donner à partir de la matière, c'est-à-dire à partir de l'œuvre créée. Alors, à partir de l'œuvre créée, dans la mesure même où dans cette œuvre créée, il y a des potentialités, ce que je vous disais l'autre jour à propos du cours de l'art. Dans la mesure où dans l'œuvre créée, il y a des potentialités, alors l'homme peut venir coopérer, non pas à la création, mais coopérer à l'œuvre de la création, ou à l'œuvre créée. Vous avez des questions sur ce sujet? Avant de passer à un autre problème, il ne faut pas hésiter de le poser, parce que c'est quand même intéressant et très intéressant pour nous. Et c'est assez délicat. Alors, il faut bien saisir ça. Je reprends, si vous voulez, avant de passer à la question suivante. Je reprends l'ensemble de cette question 45, qui, vous le voyez bien, est sûrement la question la plus intéressante au point de vue philosophique. Donc, de la manière des modo emanationis rerum, a primo principio. Il faut maintenant étudier la manière dont toute chose émane du premier principe. Toute cette question 45 que nous avons vue. La manière, c'est le pos de la création. Je ne peux pas saisir ce qu'est la création. Impossible. Pour saisir ce qu'est la création, il faudrait être à la place de Dieu. Dieu sait ce que c'est que la création. Vous, vous ne savez pas. Et moi non plus. Mais je peux savoir qu'une seule chose, c'est la manière particulière dont se réalise cette opération, cette action, ce facere. Oui, dans la création, au sens rigoureux, il y a un facere, il y a un agere. La création est au-delà de la distinction facere et agere. Parce que la création va impliquer dans sa modalité le mystère de la sagesse de Dieu, et va impliquer un effet. Donc, la création est le premier facere, la création est le premier agir. Un agir qui est celui de la sagesse. Et un facere qui est celui d'un don qui porte sur ce qui est. un faire sur l'être. C'est ça la création. C'est un facere qui atteint l'être. Donc c'est un facere substantiel, c'est un facere premier. Tandis que tous les autres facere agissent sur la forme. Tous, absolument tous. C'est pour ça que vous ne pouvez pas arriver à annihiler notre monde physique. Tout facere. Aucun facere humain n'atteint l'être. Ça va très loin quand on dit ça et quand on le comprend. Aucun facere humain n'atteint l'être. Tout facere humain implique donc de transformer les relations au niveau des formes. Vous ne pouvez donc pas atteindre la matière à l'état pur, c'est-à-dire la matière prima. On ne peut pas agir dessus. Mais désagrégation de la matière. C'est la désagrégation d'un conditionnement matériel. D'une certaine forme et disposition. Mais ce n'est pas la matière. On a dit à ce moment-là, vous savez, il y a certains qui ont dit la science nous fait découvrir la matière prima d'Aristote. Ben non, pas du tout, c'est bon qu'il n'avait rien compris. La matière prima d'Aristote est au niveau substantiel. On ne peut jamais l'atteindre. Oui ?
Le problème de la mort, pour les hommes, le problème de la mort qui nous toucherait.
Vous atteignez la mort en atteignant l'être. Qu'est-ce que vous faites quand vous tuez quelqu'un ? C'est sur la forme, sur les qualités. Et alors la conséquence, c'est la conséquence avec la séparation. Oui. Au sens strict. Vous ne pouvez pas dire que vous atteignez, vous voyez, vous n'atteignez pas le point de vue de la forme, la forme substantielle, vous n'atteignez pas l'être. La mort, c'est premièrement la négation de la vie. Vous voyez ? Ce n'est pas premièrement la négation de l'être. La mort n'est pas l'annihilation de l'être. C'est la négation de la vie. Alors, c'est la négation de la vie qui touche quelque chose de substantiel au niveau de la vie, et donc qui a une conséquence au niveau de l'être. C'est une conséquence. Ce n'est pas directement. Ce n'est pas une annihilation. La mort n'est pas une annihilation, la mort est une séparation. Et vous atteignez, vous pouvez atteindre la mort d'une façon par le point de vue violent, mais c'est toujours par le point de vue de la forme. Mais c'est évident que c'est une opération, c'est la seule opération, c'est la seule séparation substantielle que vous pouvez atteindre dans le domaine du vivant. Vous atteignez ça, mais comprenez bien que vous agissez toujours sur la forme. Sur les dispositions. Et vous touchez sur les dispositions ultimes, mais vous ne touchez pas le point de vue de l'âme. Oui.
Mais par rapport à quelle création ?
Qui ?
La création, c'est dans l'âme du corps. C'est unir la création pour l'homme, c'est unir l'âme spirituelle au corps.
Oui, oui.
La mort brise cet union-là.
Ah non, je ne peux pas dire ça. Alors là, vous seriez anti-créateur. Vous n'atteignez pas l'acte créateur de Dieu. Vous ne pouvez pas la toucher. C'est le vivant que vous atteignez. Alors le vivant au sens strict n'est pas créé. Au sens strict, hein, on l'a vu déjà. L'acte créateur de Dieu touche l'être. Et Dieu communique la vie. Alors la mort, le suicide, le meurtre touchent le vivant et pas l'être. La conséquence, il y aura une brisure substantielle. Mais c'est le vivant. Oui. Je sais très bien que dans certains aspects, quand vous regardez la manière dont Karl Rahner parle de la mort, ça vaut la peine d'être lu, eh bien, on voit très bien que la distinction à être et vie n'est plus vue, alors il dira des choses comme ça. Oui. Parce que le point de vue de la distinction de l'être et du vivant n'est pas assez vu. Et que la création comme telle ne touche pas. Oui. Ça, c'est très important. La création comme telle n'atteint pas formellement le vivant. Dieu ne crée pas la vie, formalité au point de vue. Au sens tout à fait rigoureux. Dieu crée des êtres qui seront vivants. Et donc la création regarde le point de vue, vraiment le point de vue de l'être. Et le point de vue de la mort touche le vivant. Et alors la conséquence, c'est le point de vue de la séparation substantielle de l'âme et du corps. Donc, cette question-là est très importante, puisqu'au fond, nous avons vu, n'oubliez pas le point de départ, hein. Qu'est-ce que c'est que la création ? Dieu peut-il créer quelque chose ? La création est-elle une réalité de la nature ? Donc, tout est parti au point de départ de saisir qu'est-ce que c'est que la création ? Saisir la création dans ce qu'il a de propre. C'est le komodo, hein. C'est le komodo de la création. Ou le komodo nancy. Que je n'ai pas d'expérience directe de la créateur de Dieu. Je serais électrocuté. Je n'ai pas d'expérience directe de la créateur de Dieu. Je dis que nécessairement, il y a création, mais je n'ai pas l'expérience directe. J'ai l'expérience de l'altération, dans la souffrance, dans la douleur, j'ai l'expérience, mais je n'ai pas l'expérience directe. Oui.
Même une fois l'âme séparée du corps, donc dans un point physiologique obligatoire, est-ce que c'est créé, ça c'est toujours pas créé. L'ange, lui, il sait qu'il est créé par sa propre connaissance.
Alors, c'est la grosse question, hein, c'est un point de vue théologique. C'est un point de vue théologique maintenant. Point de vue philosophique, je ne peux pas. Parce qu'au point de vue philosophique, je ne peux pas parler de mon expérience de mon âme séparée. Ça veut dire que je ne l'ai pas. C'est-à-dire, au point de vue théologique, je peux me demander. Est-ce que l'âme séparée a l'expérience de l'acte créateur de Dieu ? Ça, c'est une question du théologien, ça peut se poser. Comme le théologien peut se poser la question, est-ce que l'ange, qui est une substance séparée, a l'expérience d'être créé ? C'est une très belle question. Oui, c'est une très belle question. Est-ce que l'ange a l'expérience ? Alors ça, c'est tout savoir quel est le genre de métaphysique de l'ange. Est-ce que la métaphysique de l'ange commence par cette expérience propre d'être créé ? Voyez alors, la métaphysique de l'ange serait l'ontologisme. L'ange aurait le privilège d'être un métaphysicien en étant un ontologiste, tandis que nous, non.